au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 11 décembre, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Prudence sur les routes, là, poudrerie par endroit, là, c'est pas mal venteux. À quand le départ de Pablo Rodriguez? Les paris sont ouverts. On va en parler avec Jacques Plante un peu plus tard à l'émission. Également à l'émission, Mathieu Traversy, maire de Terrebonne. Il sera question du budget 2026 de sa municipalité. Noémie Cambrini, coordonnatrice au marché de Noël du centre-ville de Joliette, sera avec nous. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette, sera avec nous. Il sera question de la nouvelle cour municipale. Mais tout d'abord, pour débuter cette émission, l'organisation des maisons familiales par amour de Chersey va pouvoir confectionner et distribuer des paniers de Noël à compter de la fin de la semaine prochaine. Beau mouvement, bel élan de solidarité là, du côté de Chersey. On peut rappeler que les installations et ce qu'elles contenaient ont été détruits par un incendie dans la nuit de mardi à hier. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir avec le président de l'organisation des maisons familiales par amour, François Kenville.
Alors, M. Kenville, hier matin, quand on s'est parlé, on était quelques heures après le sinistre et je voudrais qu'on rappelle un peu aux gens pour que tout le monde comprenne l'ampleur, justement, là, des répercussions de ce sinistre-là. C'est que d'abord, on était en pleine période là, de confection des paniers de Noël.
Oui, effectivement, on avait déjà tout recueilli, les denrées. Nos congélateurs étaient pleins, nos frigidaires aussi. On était prêt à monter, à faire le montage des paniers de Noël qui devraient être distribués le 22-23 décembre.
Là, maintenant, il faut recommencer à zéro. Il y a déjà du travail qui a été fait hier. On s'en était parlé, là.
Oui, on est déjà... J'ai le plaisir d'avoir des bénévoles très, très impliqués puis très engagés. On a déjà trouvé un site temporaire pour nous accueillir d'ici les fêtes. Et on va commencer même la distribution de paniers partiel, panier régulier compté de vendredi, de demain. Et notre journée régulière, c'est normalement mardi, vendredi, avant mardi prochain aussi. Et 22-23 décembre, on va être capable de distribuer des paniers de Noël, comme c'était prévu.
Donc, on part d'au-delà d'une centaine de paniers, c'est-à-dire qu'on a eu des partenaires, donc j'imagine que Moisson-Lanaudière a contribué un peu.
Moisson-Lanaudière contribue énormément, sont d'ailleurs en appui total avec nous autres. Ils nous ont assuré qu'il y aurait du remplacement des denrées spécifiques au panier de Noël, comme des dindes, des tourtières, entre autres. Là. Et on avait des choses qu'on avait achetées en particulier pour bonifier les paniers. Et j'ai parlé hier avec la responsable de Moisson-Lanaudière qui m'a assuré qu'il comblerait nos besoins à 95%. Là. Fait que c'est très rassurant. Puis je vous dirais que la publicité que ça a été qu'il y a eu sur la sur les différents reportages télé comme radio. Les gens ont été très généreux sur notre site et ça continue d'entrer les fonds. On est rendu à au-dessus de 10 000 $ de contributions communautaires. Les gens sont très généreux.
Quand on s'est parlé hier matin, votre besoin le plus criant, c'était des congélateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu?
Non, à date, on est toujours stagnant à ce niveau-là. On attend un retour d'appel de certains fournisseurs. C'est pas toujours facile à rejoindre, mais on va faire des relances pour corriger cette situation-là, pour essayer d'avoir rapidement là, les congélateurs puis des frigidaires de façon temporaire. On peut pas en prendre autant qu'on avait d'installer parce qu'on n'a pas dans l'installation temporaire. C'est pas aussi grave, c'est bien sûr. Mais on va être bon pour en rentrer 5 ou 6, de sorte qu'on est capable de maintenir le service là, jusqu'au printemps, tout le moins.
Je veux revenir sur le 10 000 $ que vous avez réussi à recueillir. C'est de l'argent qui va servir finalement à acheter des denrées?
Acheter des denrées, acheter des équipements. C'est sûr qu'on a une assurance, mais avant que l'assurance débloque les fonds, on a quand même, comme je disais, des congélateurs à acheter, des réfrigérateurs à acheter. Ça va permettre un fonds là-dessus. On a quand même un peu de liquidité dans notre compte de banque, là, une petite marge de manœuvre. C'est pas énorme, mais on est capable quand même d'avancer un bout là avec ça.
Alors, on rappelle évidemment aux gens, là, peut-être en terminant, là, qui pourraient vous venir en aide, il faut passer par le site web là, de la maison.
Oui, les maisons familiales par amour. On passe par là, puis on a directement sur le site un endroit pour faire une contribution financière. Je vous dirais que c'est à coût de 5, de 10, de 15 $ puis de 20 $ Les gens sont excessivement généreux de partout dans la province, pas juste les municipalités autour, pas juste les résidents ici, là, les gens de partout dans la province viennent nous supporter.
Voilà, c'était François Kenville. Il est président de l'Organisation des maisons familiales par amour. On peut rappeler que les installations à Chersey ainsi que tout ce qu'elles contenaient en denrées ont été détruits par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. Si vous avez un petit 10 là, au fond de votre poche, là, ce serait peut-être un bon investissement pour leur donner un coup de pouce. Un beau geste de solidarité là qui provient, comme nous le disait Monsieur Kenville, d'un petit peu partout. Dans un moment, Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, il sera question de la nouvelle cour municipale.
CFNJ, avec vous partout, via l'application CFNJ, sur vos appareils Android et Apple.
Jusqu'au 24 décembre, les Galeries Joliette t'invitent aux gourmandises du terroir. Prépare tes papilles, parce que ça va goûter le bonheur d'ici. Viens rencontrer des producteurs passionnés, découvrir des saveurs locales et te gâter avec des douceurs artisanales parfaites pour les fêtes. Fromage, chocolat, bouchées festives, produits maison, tout y est pour remplir ton bas de Noël et ton ventre. Les gourmandises du terroir jusqu'au 24 décembre aux Galeries Joliette. Le rendez-vous des amateurs de bons produits, juste à temps pour Noël.
Attention, Jean de Saint-Gabriel. Ce dimanche 14 décembre de 10h à 14h, le Père Noël débarque à la station Arnois rue Saint-Gabriel pour vous gâter. Les 100 premiers clients Arnois repartiront avec une carte cadeau de 25 $ Et ce n'est pas tout. On continue la fête avec un rabais de 10 cents le litre sur votre prochain achat d'essence. Venez rencontrer le Père Noël et ses lutins. Ambiance familiale et festive garantie. Ce dimanche dès 10h à la station Arnois au 150 rue Saint-Gabriel. Ho, ho, ho! On vous attend! Des conditions s'appliquent. Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrice portative la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Amateurs de burgers, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Il est 16h14, le projet de déménagement de la cour municipale commune de Joliette est à toute fin pratique, complété. Les nouvelles installations situées à l'édifice municipal Michel Posé au 19 de la rue Saint-Charles-Borromée-Sud vont être accessibles à partir du 5 janvier prochain. Et François Morin en discute avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.
Pierre-Luc Bellerose, donc, le dossier de la cour municipale commune, on peut maintenant dire que c'est réglé. C'est quand même majeur et c'est un projet là, important pour la ville de Joliette et la MRC.
Ben oui, c'est un investissement là, de près de 8 millions de dollars. C'est un des premiers projets sur lesquels là, j'ai planché à mon arrivée là, à la tête de la ville parce qu'on voulait aussi assurer la pérennité de notre mairie. Là. On était à l'étroit, puis on cohabitait avec la cour municipale. C'est un dossier là qui était discuté déjà depuis plusieurs années. Il y avait eu des scénarios de location à certains endroits où moi j'étais allé visiter là, avec le greffe, avec la direction générale, différents bâtiments là, qui étaient à la disposition, qui étaient en vente. Et puis ce bâtiment-là répondait vraiment à notre orientation et à notre vision aussi de développement au centre-ville de Joliette. Le cachet se prêtait bien aussi là pour une cour municipale, donc tous les ingrédients étaient réunis. La possibilité aussi de conjuguer notre stationnement public à proximité avec le nouveau stationnement de la cour. Donc, on a pu conclure cette entente-là, faire l'acquisition là, du bâtiment.
Et il faut quand même le mentionner, c'est un projet qui a été réalisé quand même relativement rapidement.
Oui, mais il y a eu quand même aussi quelques imprévus. On le sait, là, il y a eu des réservoirs là, qu'on a dû déterrer. Puis c'est un projet qui était relativement complexe. Puis on voulait aussi qu'il soit axé sur le développement durable. Donc, il y a de la géothermie, la gestion de l'eau aussi. Il y avait aussi plusieurs modalités du ministère qui devaient être respectées, que ce soit au niveau là, du juge qui doit pas là, rencontrer les prévenus, qui doit avoir sa sortie. Donc, on devait vraiment le configurer, le bâtiment, pour que ça réponde là, aux normes du ministère de la Justice. Fait qu'on se retrouve avec une cour municipale qui est vraiment moderne, adaptée. Puis même la juge en chef là, de municipal là, lors de son passage était vraiment impressionnée par la qualité de l'infrastructure qu'on offrait là, aux citoyens. Puis l'important aussi dans la décision, c'est vraiment de faire une distinction entre l'hôtel de ville et la cour municipale, parce que les gens souvent croient que le maire ou le conseil municipal peuvent s'immiscer dans que ce soit des constats ou des décisions. Souvent, des gens qui me disent « Monsieur le maire, pouvez-vous annuler mon constat d'infraction ?» ou non, ça ne se passe pas comme ça. Le maire ou le conseil municipal n'a pas ce pouvoir-là. Nous, un peu comme au Parlement, à l'Assemblée nationale, on adopte des règlements et par la suite, ils sont appliqués par des agents et la justice suit son cours. Donc, c'est important aussi qu'il y ait vraiment une indépendance puis que les gens le comprennent encore plus facilement comme ça. On a deux bâtiments, donc comme ça, deux administrations différentes, même si on le sait que les dépenses sont assumées, la gestion sont assumées là, par la ville.
Maintenant, on gagne un peu d'espace à l'intérieur. Est-ce qu'il y a déjà des projets pour des changements là, à l'intérieur de l'hôtel de ville?
Oui, ben on n'a pas d'ascenseur non plus à l'hôtel de ville, donc on veut s'assurer d'offrir le maximum de services à nos citoyens au rez-de-chaussée. Donc, on va réaménager. Il y a des plans qui sont soumis actuellement au conseil aussi pour limiter les dépenses. Ça, c'est important pour nous qu'on n'ait pas à déménager l'hôtel de ville qui est bien situé. Il y a du stationnement, donc on va refaire aussi l'accueil, que ce soit plus convivial, la salle du conseil. Donc, on est à évaluer tout ça là pour que ce soit le mieux et le moins dispendieux possible pour nos citoyens. Puis il y a aussi les archives là, qui vont se trouver dans la nouvelle cour municipale. Donc ça, c'est un autre plus parce que nos archives, disons, n'étaient pas entreposées selon les règles de l'art.
Donc on a grandi par en dedans.
Eh oui, on assure la pérennité de nos bâtiments parce que faire l'acquisition, la construction, on sait c'était dispendieux, puis on se retrouve toujours avec des surprises. Trouver aussi un site qui va venir répondre au maximum de citoyens par sa localisation. Puis on pense qu'actuellement, l'hôtel de ville répond vraiment à ces besoins-là. Puis on est à proximité du centre-ville aussi. Donc, on voulait conserver le site. Mais le rez-de-chaussée, on était vraiment là, à l'étroit. Et là, avec le départ de la cour, ben, ça va nous donner des possibilités additionnelles là, pour le service aux citoyens.
En terminant, je voyais d'une question à deux volets. Est-ce que ces projets à l'intérieur de l'hôtel de ville sont prévus dans le prochain plan triennal d'immobilisation qui sera présenté à peu près en même temps que le budget, j'imagine, la semaine prochaine?
Oui, c'est des dépenses qui sont prévues. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en parle. Là, dès mon premier mandat avec le conseil, c'était à l'ordre du jour. Ça, puis aussi l'aménagement au niveau du pavillon Gilles Baudet pour répondre encore davantage aux organismes communautaires. Donc là aussi, il y avait un réaménagement. Donc ça, c'est pas des nouvelles comme telles. Là, ça fait partie là, d'un processus qui est en cours depuis le premier mandat. Là.
Et pour la semaine prochaine, pour lundi prochain, il y aura des surprises?
Ben, pas vraiment. Je disais qu'on travaille beaucoup, on l'a dit, hein, les infrastructures, ça fait partie de l'actualité, on l'a vécu, puis avec la résilience climatique, avec tous les changements qu'on vit, puis il faut dire que certaines infrastructures aussi étaient en fin de vie, là, si on pense notamment à Lanaudière ou ce qui s'est fait au niveau de Saint-Pierre ou La Joie dans les dernières années, on parle des infrastructures qui datent de 100 ans, là. Donc ce n'est vraiment pas un luxe. Je disais, la tragédie un peu dans tout ça, c'est qu'on se retrouve à un moment où il y a beaucoup de coupures, ou à tout le moins, il n'y a pas d'investissement des gouvernements provinciaux ou fédéraux. Et aussi, les coûts ont explosé. Toutes les villes et municipalités aussi se sont lancées là, dans ces travaux-là. Donc, on se retrouve avec des chantiers qui coûtent considérablement plus cher. Là, si on pense au chantier Saint-Pierre qui vient de se terminer, là, on parle d'un projet de près de 15 millions. Donc, c'est quand même des investissements massifs. C'est vers ça là, dont la ville veut se pencher, là, veut investir beaucoup. On sait que les gens aussi, je pense qu'ils ont des appréhensions par rapport là, à d'autres... disons, à d'autres situations climatiques qui pourraient survenir. Donc, on investit beaucoup au niveau de nos infrastructures dans les années à venir.
C'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose. On aura sans doute l'occasion de lui reparler la semaine prochaine avec le dépôt du budget. Il est 16h21.
Lanaudière PM, famille.
Avec nous, Noémie Cambrini, elle est coordonnatrice au marché de Noël, Place Bourget à Joliette. Bonjour!
Bonjour!
Noémie, j'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs le week-end dernier sur la Place Bourget, ce beau marché de Noël où il y a une foule d'exposants. L'ambiance est extraordinaire.
Absolument, on a une trentaine d'exposants qui sont disponibles sur place, donc certains qui restent d'année en année, qui sont là depuis même plus de 10 ans, et d'autres qui sont nouveaux, donc ne vous attendez pas toujours à recevoir les mêmes, mais on a des classiques qui demeurent.
C'est familial, Père Noël qui est sur place d'ailleurs les vendredis soirs, également les samedis et dimanches en après-midi.
Absolument, ça c'est très populaire, ils peuvent vraiment aller déposer une lettre aussi avec notre boîte aux lettres géante, que chacune des lettres est répondue, et ils peuvent aussi prendre la photo avec le Père Noël, qui est un classique, ils reçoivent tous un sac cadeau d'ailleurs grâce à nos commanditaires.
On peut parler un petit peu des exposants avec leurs petites cabanes qui sont sur place. Bon, je dois le dire, je me suis laissé tenter le week-end dernier par un beau chandail en alpaga. De très beaux produits artisanaux qui sont en vente.
Absolument, puis c'est des produits qui sont vraiment originaux, puis la plupart sont uniques, donc vous n'avez pas nécessairement à revoir ces produits-là ailleurs ou dans d'autres éditions, même si vous faites affaire avec le même exposant.
Donc, on peut parler entre autres de la cabane à sucre Constantin Grégoire avec l'approche des fêtes. C'est intéressant d'avoir des produits vraiment sucré comme ça. La ferme Bourdelais qui est là, ferme Guirivet, miel Morand avec de nombreux produits fins.
Absolument. Puis pour intéresser peut-être les jeunes qui aiment ça un petit peu la nouveauté, on a aussi Okashpop qui est sur place qui fait des produits lyophilisés.
Oh!
Donc ça, c'est une nouvelle façon de consommer les produits et de les conserver à plus long terme.
Oui.
Mais ils vont faire ça avec des bonbons ou avec des fruits, entre autres. Si vous voulez glisser une collation plus santé sans aller chercher des produits chimiques ou des additifs, c'est simplement une méthode de préservation qui est différente. Fait que ça peut être intéressant, ça aussi.
Il y a de l'animation sur place, vin chaud, food truck également, un bar... Bref, vraiment de quoi passer un beau moment en famille, en amis, entre amis, sur place.
Absolument, on travaille très fort là-dessus. On a aussi 2 foyers sur place pour vous réchauffer si jamais vous avez les bouts de doigts qui commencent à geler après un certain temps. Mais c'est généralement très bien protégé du vent aussi au niveau de la Place Bourget.
Je parlais d'animation. Lorsque je suis passé le week-end dernier, il y avait des danseurs folkloriques. Il y aura d'autres danseurs aussi à venir.
Absolument, entre autres, le 20 décembre, on va recevoir l'école de danse Mélanie Poirier où les étudiants vont venir faire une prestation directement sur le tronçon Manceau au cœur de la Place Bourget.
Et à venir donc également, parce qu'il y a d'autres prestations aussi.
Oui, mais demain d'ailleurs, on a encore l'école Les Mélèzes qui nous renvoie sa chorale de jeunes enfants qui viennent participer au centre. Donc, vous allez pouvoir les entendre chanter leur chanson de Noël. Ce week-end, on a aussi les Frères Mercier et c'est pour en nommer que quelques-uns, car chaque week-end, on a une animation différente.
Et ça se passe donc sur la Place Bourget, centre-ville de Joliette, et j'ai l'impression que d'année en année, ça prend de l'expansion.
Absolument. Puis l'année prochaine, c'est notre 20e. Donc, je vous dévoilerai pas toutes les surprises aujourd'hui, mais on en prépare toute une.
Ça s'en vient. Et là, faut le rappeler, ça se tient jusqu'au 23 décembre, marché de Noël, centre-ville de Joliette, en pleine Place Bourget. C'est du jeudi au dimanche, mais il faut mentionner qu'il y aura lundi 22 et mardi 23 décembre aussi de 11h à 17h, le marché qui sera ouvert.
Absolument, c'est l'idéal pour les cadeaux de dernière minute quand vous voulez faire quelque chose d'original plutôt que simple carte cadeau passe-partout. Là.
Oui, exactement. Donc, l'endroit pour acheter vos cadeaux, encourager en même temps des commerçants locaux, des artisans locaux sur la Place Bourget au centre-ville de Joliette. Merci pour ta visite, Noémie.
Bien, merci à vous de m'avoir reçu.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
16h25 métropolitaine pour Charles de Gaulle. Ça devient plutôt dense là, à partir de Marien et sale demeure là, jusqu'à oh là là, passer le pont d'étagement du CN. Là, je vois que c'est encore lourd, là, mais quand même, on reprend un peu de vitesse. Je regarde la traversée. Charles de Gaulle, c'est lent. C'est lent sur Charles de Gaulle. Sale demeure jusqu'à la hauteur de la 640. Repentigny, secteur industriel très lourd. On reprend de la vitesse à Valmont par la suite. Pour le reste, ouais, c'est quand même pas si mal. La 341, montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière L'Assomption, là, c'est très, très dense en ce moment. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. 25 Nord, ça, c'est problématique, là. C'est très lourd depuis avant le boulevard Henri-Bourassa. Et sale demeure jusqu'au boulevard des Mille-Îles, avant de franchir la rivière des Mille-Îles. Île-Saint-Jean, ça va bien. Terrebonne aussi, ça, c'est une bonne nouvelle. Mascouche également. Pont Sophie-Masson, quand même pas si mal. Un petit peu nombreux à l'approche, mais sinon, la traversée est pas mal. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40 en direction est. C'est dense depuis un peu avant la montée des Pionniers. Direction ouest, un petit peu nombreux, le secteur de la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Ce soir, 18h, CFNJ présente T-shirt Jeans Baskets directement du Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. En vedette, Galant, tu perds ton temps.
En passant par la Lorraine avec mes sabots.
En passant par la Lorraine avec mes sabots.
Rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'Andenne. Oh, 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 avec mes sabots.
Oh, 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 avec mes sabots.
Galant, tu perds ton temps. Ce soir, 18h à CFNJ. Une présentation de Pinard Ford Sainte-Julienne.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
J'achète chez moi, j'achète l'anneau doigt.
Des produits de qualité, des services de proximité et une économie qui grandit grâce à nous. Achetons ici, investissons chez nous.
Cette campagne d'achat local est une initiative de CFNJ 99.1 et 88.9, votre radio 100% lanaudoise, au service de l'économie régionale.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour. Chocolat chaud.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croque, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Mata et Saint-Gabriel-de-Brandon.
L'actualité de ce jeudi 11 décembre en manchette. Enfin, une entente entre les médecins et le gouvernement. Pablo Rodriguez qui ne veut pas partir et un beau geste de solidarité du côté de Jersey. Mais tout d'abord, Pierre Jubinville, Terrebonne, qui maintient la hausse du taux de taxe autour de l'inflation.
Oui, Claude, le Terrebonne verra ses dépenses augmenter de 22 millions en 2026 pour passer à 350 millions de dollars. Le compte de taxe des particuliers est maintenu près de l'inflation à 2,94%. Celui des commerces augmente de 3,3% et celui des industries variera entre 4 et 5%. La masse salariale correspond à 41% du budget. Le maire précise que de gros projets sont en attente pour 2026, dont la création du 8e parc industriel et peut-être le lancement du projet de cité universitaire de l'UQTR. Mathieu Traversy parle d'un budget réaliste.
Ben moi, je pense que c'est un budget qui est pragmatique parce que donc on réussit à limiter donc les augmentations de taxes.
On essaie donc d'améliorer notre bilan au niveau donc de l'endettement, puis au niveau aussi de l'optimisation à l'interne. C'est certain que c'est de la création de richesses, Terrebonne beaucoup. Donc, on a beaucoup de nouveaux développements résidentiels, création d'un 8e parc industriel à venir. On a acheté aussi beaucoup de terrains dans lesquels il y a des projets qui vont se développer au cours des prochains mois et des prochaines années.
Toujours sur la scène municipale, Pierre, la rénovation des infrastructures, c'est le défi pour plusieurs municipalités comme Joliette, par exemple.
Oui, sans révéler l'ampleur de son prochain budget, Pierre-Luc Bellerose admet que la ville est confrontée à des dépenses faramineuses pour moderniser les infrastructures. Selon M. Bellerose, plusieurs infrastructures datent de 100 ans et plus, donc c'est pas un luxe de les changer. Il donne comme exemple les travaux qui viennent de se terminer sur la rue Saint-Pierre et la ville doit payer une facture de plus en plus élevée.
Je dirais, la tragédie un peu dans tout ça, c'est qu'on se retrouve à un moment où il y a beaucoup de coupeurs, ou à tout le moins, il n'y a pas d'investissement des gouvernements provinciaux ou fédéraux. Et aussi, les coûts ont explosé. Toutes les villes et municipalités aussi se sont lancées là, dans ces travaux-là. Donc, on se retrouve avec des chantiers qui coûtent considérablement plus cher. Là, si on pense au chantier Saint-Pierre qui vient de se terminer, là, on parle d'un projet de près de 15 millions.
Santé maintenant, on l'attendait depuis un bon moment. Là. Enfin, il y a une entente entre le gouvernement et les médecins.
Oui, après des mois et des mois d'affrontement, donc c'est une première entente avec les médecins omnipraticiens, le gouvernement Legault se donne jusqu'en février pour apporter des amendements.
L'implication de François Legault dans le conflit avec les médecins porte fruit.
Ben écoutez, c'est une excellente nouvelle.
Alors qu'une entente de principe est signée avec la FMOQ.
Ça serait vraiment gagnant pour les médecins, gagnant pour le gouvernement, puis surtout gagnant pour les patients.
Tel que revendiqué depuis des semaines par les médecins, le ministre de la Santé, Christian Dubé, suspend donc sa loi 2 jusqu'en février, le temps de l'amender.
J'ai toujours dit que la loi 2, elle était perfectible.
La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, de son côté, se garde pour l'instant de détailler les concessions du gouvernement.
L'objectif, c'était d'augmenter la prise en charge des Québécois, de changer le mode de rémunération des médecins.
Notamment, ce qu'il advient de l'épineuse question de lier une partie de la rémunération des médecins à des cibles de performance.
Incluant tout avantage financier qu'il pourrait y avoir, on ne commentera pas là-dessus. Allez, aujourd'hui.
Philippe Rodrigue, Como Cogeco Nouvelle, Québec.
Bon, on est en train de régler le problème des médecins, mais maintenant, ce sont les pharmaciens qui sont mécontents.
Oui, autour des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux et en CHSLD, ils ont voté massivement pour un mandat pour mettre en œuvre des moyens de pression. Ils comptent notamment cesser de participer au dossier santé numérique pour ce qui concerne tout le volet prescription. La directrice générale de l'Association des pharmaciens, Linda Vaillant.
Les pharmaciens sont prêts à agir parce qu'ils sont tannés. Ils sentent qu'ils ne sont pas entendus et presque pas respectés. Parce que quand vous travaillez avec un paquet de professionnels autour de vous qui ont tous eu un règlement, qui ont tous les nouvelles primes, les nouvelles clauses du réseau, vous faites la même chose qu'eux, mais vos primes à vous sont moins élevées que tous les autres qui ont réglé le dossier, puis personne ne semble se soucier de ça, alors que déjà notre salaire est beaucoup moins élevé que le secteur privé. C'est insultant.
Maintenant, Pablo Rodriguez s'accroche à la tête du Parti libéral.
Il n'entend pas du moins céder aux pressions, c'est ce qu'il nous a répété aujourd'hui. Il estime toujours être le meilleur pour gagner la prochaine élection.
Les appels à sa démission viennent de partout, mais Pablo Rodriguez s'accroche.
En juin, j'ai été élu par les militants parce qu'ils savent que j'ai l'expérience pour battre la CAQ.
Malgré une enquête criminelle sur de possibles malversations et trafic d'influence, le chef libéral n'entend pas jeter la serviette.
Tout au cours de ma vie, je me suis non seulement battu, mais j'ai gagné. À chaque fois, je vais le faire encore et on va battre la CAQ.
Mais dans son caucus, les députés commencent à en avoir assez, comme l'indique Monsef Deragi.
Chaque jour, on apprend des nouvelles.
D'autant que la crise accapare toute la place.
Parce qu'au lieu de parler des préoccupations des Québécoises et des Québécois, on passe le temps à parler d'une corde.
Le chef intérimaire, André Fortin, maintient cependant son appui à celui qu'il a nommé.
Moi, j'ai pleinement confiance en Pablo Rodriguez. J'ai pleinement confiance en son intégrité.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec. On va parler des fameux brownies. C'est terminé. Il y a une loi anti-brownies maintenant.
Oui, qui a été adoptée d'urgence aujourd'hui pour bannir cette pratique et finalement colmater une brèche dans la loi électorale. Il y a des amendes salées si quelqu'un pense encore à offrir des brownies. Rappelons que des sommes d'argent auraient été versées pour inciter à voter pour Pablo Rodriguez lors de la dernière campagne à la direction du PLQ. En échange d'un vote pour le candidat, on remettait un billet de 100 $, d'où l'allusion aux brownies.
Aux brownies, voilà. Ouais, c'est ça. ça. Ça veut dire que vous pouvez servir des brownies à Noël, là, c'est pas interdit, là, sur votre table de cuisine.
C'est bon, en plus.
On a rendu hommage, tiens, à Audrey Boisjoli, la mairesse du côté de Saint-Félix-de-Valois.
Oui, Mme Boisjoli doit composer avec des relations de travail difficiles entre sa municipalité et la brigade incendie. C'est la députée de Berthier et ministre de la Condition féminine, Caroline Proulx, qui a souligné à l'Assemblée nationale l'engagement de Mme Boisjoli, qui lui a valu, entre autres, un prix remis récemment par la Société d'habitation du Québec.
Sous ta gouverne, Saint-Félix a su consolider son dynamisme économique tout en préservant ce qui fait sa force, la qualité de vie, l'esprit de solidarité, la proximité humaine que tu as, de piloter avec détermination des dossiers qui sont essentiels, qu'on parle de développement durable, d'accès aux services. Grand prix cette année, élu par la SHQ pour ton engagement reconnu par la Société d'habitation du Québec. C'est un grand honneur de pouvoir travailler et partager avec toi.
Et en terminant, Pierre, ça risque d'être bruyant ce soir et cette nuit dans les rues de Joliette.
Au moins au centre-ville, la ville de Joliette amorcera ce soir ses opérations de chargement de la neige. Centre-ville ce soir et demain, et les autres secteurs suivront du 14 au 19. Évidemment, les gens sont appelés à respecter l'interdiction de stationner.
Merci, Pierre voilà. Jubinville. Il est 16h36.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNJ. Lanaudière PM. Affaires municipales.
La ville de Terrebonne qui vient d'adopter les prévisions budgétaires 2026 et comme à plusieurs endroits, bon, on parle d'un budget en croissance et comme l'a expliqué François Morin, le maire Mathieu Traversy de Terrebonne, les propriétaires de maisons unifamiliales vont être relativement épargnés.
Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, peut-être d'entrée de jeu nous parler un peu là, des facteurs dont l'administration a dû tenir compte dans la préparation du budget 2026, parce qu'évidemment, il y a plein de contraintes là, pour les municipalités.
Il y a des gros défis du côté des municipalités, M. Morin. Donc, ce premier budget de ce nouveau mandat devait tenir compte de plusieurs critères. Tout d'abord, on a promis à la population de ne pas augmenter le compte de taxes plus haut que l'inflation. Donc, ça a été un des critères qui nous a guidés. Puis, évidemment, on continue à investir davantage dans nos infrastructures, notamment au niveau de nos aqueducs à Terrebonne pour essayer de faire face aux nouvelles réalités, puis aussi à des infrastructures qui sont vieillissantes avec le temps. Donc, on a voulu vraiment tourner nos efforts de ce côté. Puis, on garde un œil sur la saine gestion des finances publiques là, pour essayer, évidemment, d'en offrir le maximum aux citoyens puis aux citoyennes de notre municipalité.
On veut des chiffres, évidemment, là, un budget, en tout cas, les budgets des municipaux ont tendance à croître au cours des dernières années. J'imagine que c'est la même chose chez vous.
Oui, alors le budget est rendu donc à 350 millions de dollars à la ville de Terrebonne, donc pour l'année 2026 là, qui s'en vient. On a donc une augmentation qui est significative. Notre taux de taxe, lui, par contre, va être un petit peu plus bas que l'inflation, donc nous permet aussi d'emmener à de l'optimisation à l'intérieur de la municipalité. Donc 2,94 d'augmentation pour une maison unifamiliale moyenne à Terrebonne pour la prochaine année. Le taux d'indexation était autour de 3,3% dans la grande région métropolitaine. Donc, on continue à être un petit peu en dessous, puis on va faire des économies à l'interne pour être capable d'attacher les fils pour la fin de l'année.
Est-ce qu'on a des chiffres pour les commerçants, en fait, les taxes d'affaires et également les industries?
Oui, ben pour les petits commerces, on va rester vraiment collé sur l'inflation à 3,3% d'augmentation pour la prochaine année. Par contre, pour les grands commerces et pour les industries, ça va être un petit peu plus haut. Donc, ça varie selon les tranches là, de valeur là, des différentes institutions. Ça peut varier entre 4 et 5% donc d'augmentation du côté de notre force économique.
Est-ce que, comme dans la plupart des municipalités, la masse salariale compte pour beaucoup, puis également, évidemment, les investissements en infrastructure?
Oui, ben effectivement. Donc, la masse salariale est toujours contrôlée. On est toujours autour de 40-41% de notre budget qui tourne autour de la masse salariale. Donc, on essaye de garder effectivement la ville toujours dans les mêmes eaux. Il y a seulement quelques embauches qui sont permises au cours de l'année 2026. Donc, on parle d'une dizaine d'employés. Terrebonne, c'est une ville en croissance. Donc, quand même, il faut continuer à offrir des services. C'est sûr que quand on a
des milliers de nouveaux logements qui viennent se créer sur le territoire. Bien évidemment, c'est des infrastructures à gérer, c'est des services, c'est des besoins que les citoyens donc ont auxquels on doit répondre. Alors, on s'ajuste en conséquence. Puis du côté des infrastructures, bien, on continue à faire notre grand traitement de canal à Terrebonne. On a eu des inondations importantes en 2024. Donc, on continue à faire le grand récurage de nos tuyaux à travers le territoire de la municipalité.
Comme dans plusieurs municipalités, je pense entre autres à vos collègues du côté de Repentigny, on a décidé de créer, si on veut, ou de se mettre de l'argent en banque pour payer, comme on dit en bon québécois, comptant certains projets. Est-ce qu'on va faire de même chez vous?
Oui, tout à fait. Donc, les paiements comptants en immobilisation pour la ville de Terrebonne vont doubler cette année. Donc, on va passer de 2 à 4 millions de dollars par année. Puis, on investit beaucoup dans des fonds dédiés pour nos infrastructures. Le fonds bleu qui, lui aussi, force à faire des paiements comptants à chaque année. Donc, on essaye de réduire les emprunts qu'on peut faire dans ce genre d'opération là pour les années à venir. Puis, dans le cas de Terrebonne, ce qui est intéressant, parce que je veux parler pour ma paroisse, on a des gros projets qui s'en viennent. Vous avez vu qu'on a signé une entente de principe avec le groupe Montoni pour notre 8e parc industriel. C'est des transactions potentielles qui risquent de dépasser les centaines de millions de dollars. Donc, là-dessus, on a aussi d'autres projets qui sont en cours. On est rendu à l'heure de Terrebonne de récupérer nos billes dans tous les emprunts qu'on a faits au cours des dernières années. Et donc, évidemment, on va en mettre une partie sur la dette là, pour essayer aussi d'améliorer notre bilan.
Bon, vous m'ouvrez une porte avec le groupe Montoni. On sait qu'il y a un grand projet de campus universitaire, en fait, de cité universitaire
oui.
Du côté de Terrebonne. Et ça également, c'est un partenariat public-privé. On s'attend à quelque chose là, au cours de la prochaine année.
Hey, je suis extrêmement fébrile et confiant là, qu'on va être capable d'en arriver donc à une entente avec le gouvernement du Québec, l'UQTR et la ville de Terrebonne qui viennent d'acquérir le terrain du site en question. Évidemment, il y a encore des éléments attachés. Il y a le budget québécois qu'il faudra regarder au mois de mars prochain. Mais je pense que les gens du sud de la Naudière, plus particulièrement aussi sud de Terrebonne, peuvent garder espoir là, sur la possibilité d'avoir le choix d'étudier dans leur région puis dans leur municipalité.
Comment vous qualifiez ce budget-là, conservateur ou optimiste?
Ben moi, je pense que c'est un budget qui est pragmatique parce que donc on réussit à limiter donc les augmentations de taxes. On essaie donc d'améliorer notre bilan au niveau donc de l'endettement puis au niveau aussi de l'optimisation à l'interne. C'est certain que c'est de la création de richesse, Terrebonne beaucoup. Donc on a beaucoup de nouveaux développements résidentiels, création d'un 8e parc industriel à venir. On a acheté aussi beaucoup de terrains dans lesquels il y a des projets qui vont se développer au cours des prochains mois et des prochaines années. Donc oui, il y a de maintenir la situation financière, mais il y a surtout continuer à agrandir l'assiette pour le plus grand bénéfice, dans le fond, de la population là, de notre ville.
Somme toute, Terrebonne est quand même relativement choyée en raison, justement, de ses revenus provenant des taxes, mais on aura quand même besoin de l'aide gouvernementale.
Tout à fait, et Terrebonne continue à prioriser, dans le fond, les projets qui sont reliés à des subventions. C'est un élément qui était peut-être moins dans les habitudes il y a quelques années. Depuis deux, trois ans, la ville de Terrebonne a décidé de prioriser les projets là, qui bénéficient d'une subvention d'un palier gouvernemental, qu'il soit fédéral ou provincial, ou encore au niveau de la CMM. Vous avez vu qu'on a acquis le golfe Le Boisé dans la dernière année, grâce notamment à la communauté métropolitaine de Montréal, avec donc une subvention de près de 12 millions de dollars. C'est donc là-dessus des éléments là, qui vont continuer à être priorisés de notre côté.
Bon, voilà, c'était le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, concernant le budget 2026. Puis on aura aussi l'occasion la semaine prochaine de parler de d'autres municipalités avec des budgets qui vont sortir, entre autres, du côté de Joliette. Dans les prochaines minutes, Jacques Plante, il va être question, évidemment, de Pablo Rodriguez.
Amateur de cadeaux uniques, gourmets curieux, famille en quête de magie, le marché de Noël de Joliette vous attend jusqu'au 23 décembre au cœur de Joliette. Près de 30 artisans et producteurs du terroir vous offrent des trouvailles originales, parfaites pour gâter ceux qu'on aime. Et pour le plaisir des plus jeunes, la maison du Père Noël, des surprises et des biscuits pour tous les enfants sages. Sortez vos manteaux, vos guirlandes intérieures et venez partager un Noël authentique dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Marché de Noël de Joliette, des cadeaux, des sourires, des souvenirs. Pour plus d'informations, noeljoliette.com.
Chez Lustre Auto Saint-Félix de Valois, redonnez de l'éclat à votre voiture. Lavage extérieur pour seulement 20 $ sans rendez-vous. Passez dès maintenant au 4164 rue principale à Saint-Félix de Valois. Lustre Auto, propre, rapide et brillant.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah, hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda. Une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrices portatives la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
16h46, salut Jacques.
Bonjour Claude, salut tout le monde.
À quand le départ de Pablo Rodriguez? Là, moi j'ouvre les paris.
Oui, c'est roulette russe un peu, là. Ouais. Ça dépend comment ça va se passer. Pour l'instant, il y a toujours l'appui de, comme on dit, de son caucus, là, c'est-à-dire les députés élus.
Mm-hmm.
Là, c'est les gens de la base, des organisateurs.
Ben c'est les militants là qui
en ont ras-le-bol. Et il y a des anciens
on
ministres.
On dit qu'une douzaine d'ex-élus là réclament sa démission là.
Une pétition qui circule.
On signe un papier là, puis ils veulent le voir partir parce qu'ils voient que le Parti libéral va être entaché. Mais de toute façon là, oubliez ça.
La job est faite là.
La job est faite avec l'UPAC qui enquête dans le Parti libéral. Là, pensez
ça
pas
va traîner tout le temps.
Pensez pas qu'il y aura un rapport au mois de janvier. Là. Non. Le rapport va sortir après la prochaine élection, sûrement.
Ouais,
donc, oubliez le Parti libéral pour la prochaine élection. Puis, si Pablo s'en va, ce sera pas mieux pour le prochain chef du Parti libéral. Parce qu'il
a un méchant job de bras à faire.
Oublie ça, tu peux pas remonter le parti d'ici la prochaine élection. Là. C'est impossible.
Imagine, là, c'est ça, l'UPAC, habituellement, c'est très long, les enquêtes comme telles. Puis, ça va-tu donner quelque chose? Ça reste à voir aussi, là. Parce que, en tout cas, c'est ça. Mais ça reste à voir. Moi, je mets un petit bémol là-dessus. L'UPAC, là, on a vu dans le passé, là, ce que ça a pu faire, là, tu sais. J'ai toujours dit, moi, quand tu reviens les lettres à l'envers, ça fait ça pue, là. Hein? Fait que, c'est ça. Mais, tout ça pour dire que, actuellement, il y a beaucoup de gens, je peux mentionner Christine Saint-Pierre, j'écoutais ce midi, là, en allant dîner à la maison, j'écoutais un peu les points de presse qui étaient faits.
Mm-hmm.
Et Pablo, pour l'instant, il persiste et il signe, comme on dit.
Il s'accroche.
Moi, je suis là pour battre le PQ puis battre la CAQ aux prochaines élections. C'est moi qui vais être là.
Ben, comme François Legault, d'ailleurs.
Oui, mais François, lui-là, il voit aller la débandade au niveau du Parti libéral. Et lui se dit, on va être là pour fronter le Parti québécois.
Oui.
Mais à l'intérieur de son propre parti aussi, ça commence à grenouiller.
Beaucoup, depuis longtemps.
Les gens lui demandent, outre que d'aller prendre une marche dans la neige, là, comme il a dit à l'entrée du Conseil des ministres, tu sais, tu devrais prendre une plus grande marche sur une patinoire, si tu vas rester debout.
mais revenons à Pablo.
Ça change l'échiquier politique, pas à peu près. Là, ce qu'il faut regarder, on avait fait déjà un petit peu allusion de ça, Claude. C'est que quand Pablo Rodriguez, a décidé de quitter Ottawa puis de s'en venir à Québec pour la chefferie du Parti libéral, il a amené sa gang.
Oui.
Et ça, c'est jamais bien vu, les fédéraux qui débarquent dans un lieu de provinciaux.
Ils sont perçus comme des étrangers. Qu'est-ce que vous venez faire dans notre parti, là?
Et j'oserais te dire, tout parti confondu.
Ouais.
Moi, je me suis déjà fait traiter. Je travaillais pour Pierre Paquette à l'époque, à Ottawa, au fédéral. J'allais donner un coup de main sur la scène provinciale. Et le premier matin que je suis rentré dans le bunker, on a dit, les fédéraux qui débarquent.
Fait que
en partant, on n'a pas une bonne étiquette.
Mais comme Pierre nous disait hier, c'est que, on perçoit souvent le Bloc québécois, le Parti québécois, comme étant des vases communicants.
Mm-hmm.
Mais selon Pierre, le Parti libéral fédéral, le Parti libéral provincial, c'est vraiment deux entités très distinctes. Puis, il n'y a pas de... c'est pas des gros trans, il y a pas de grosses,
il y a pas d'affinité.
Ouais, il y a pas de grosses affinités, mais là avec Pablo Rodriguez qui, rappelons-le, était ministre sous Justin Trudeau. Mm-hmm. Alors il part du fédéral, traverse la rivière à Ottawa pour s'en venir à Québec et ça a été l'image était là, mm-hmm. hein, quand il s'est lancé dans la course à la chefferie là, mais ben, c'est une autre paire de manches parce que là on a vu qu'il y avait des fédéraux qui l'avait appuyé dans sa campagne en donnant des brownies puis des 500 piastres aussi, pas juste des 100 piastres, il y a eu des 500, tout ça, là.
Oui, c'est ça. Mais il reste que dans le financement, il y a quand même des gens qui regardent de ça. Là, on va fouiller là-dedans, tu sais, comme les 1000 $ qui ont été retournés.
Mm-hmm. On dit que c'était à des bénévoles. On payait des bénévoles 1000 $.
On disait que c'était des surplus, puis mm-hmm. le budget, il faut le ventiler en quelque part.
Ouais.
Tu sais, c'est un peu comme ils ont voté, là, tu m'as écrit tantôt, là, ils ont voté la loi anti-brownie, là, au niveau... Oui. C'est une niaiserie, quant à moi, là, oui. parce que c'est facile de regarder quand qu'on peut passer à côté du fossé, là, dans le chemin. Moi, je veux te mentionner ceci. Un ancien président du Parti libéral du Québec, ce monsieur-là, il s'appelle Robert Benoit. Il était là de 1985 à 89. Lui, il dit, je veux pas revivre le cauchemar de la gang du fédéral qui débarque avec le grosse bottine au Parti libéral du Québec. C'est déjà arrivé. Je pensais jamais de revivre ça. C'était arrivé avec un certain Robert Bourassa.
Ah, oui.
OK? Et lui, il l'avait vécu, ce monsieur-là. Et il dit, je veux pas revivre ça. Et là, moi, ce qui me fait penser, le fait que Pablo Rodriguez, là, écoute, là, tout le monde veut y botter les fesses puis qu'il sorte de là, là, il maintient qu'il reste là. C'est un peu un pas un examen de conscience, mais il a sa conscience. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec sa gang. On va parler de Geneviève Hanks.
Oui.
Qui était sa chef de cabinet là-bas.
Oui.
Il l'a délogé de là-bas pour l'amener ici.
Oui. Et que Marois a sacré à la porte ensuite.
Il y a d'autres personnes qu'il a amenées avec lui. Si demain matin il démissionne, ces personnes-là, les feuilles vont le lever aussi.
Ah,
là.
Ben, bon, ils vont retourner à Ottawa.
Alors, ben, ça, c'est pas sûr, là.
Ouais.
C'est pas sûr, là. C'est pas sûr que la gang à Carnet vont y rouvrir la porte. Ils sont partis vers le Québec.
Ouais.
Ils ont décidé de quitter le château fort à l'autre bout. Alors, c'est peut-être ça un peu qui est sur la conscience en disant, moi, je peux bien démissionner parce que, entre toi et moi, là, puis les gens qui nous écoutent, Rodriguez, il est pas... Tu sais, il a été longtemps député, il a été ministre, il a sa pension, il est pas en peine financièrement.
Mais je pense qu'à l'interne, ce qu'on peut lui reprocher au Parti libéral, c'est d'être arrivé là avec ses gros sabots,
sa gang.
Right. Tassez-vous de là. Moi, je connais ça, je vais placer mon monde, on est plus intelligent que vous autres.
Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que les... Parce qu'il y a des gens qui devaient grogner dans le décor, là.
Mm.
Et ça a pris du temps avant qu'il y ait une réaction. Et là, avec ce qui se passe actuellement, puis l'UPAC, ça a été la cerise sur le Sunday, là, il y a des voix qui s'élèvent en disant « Les fédéraux ont débarqué, et c'est là. » Et rappelez-vous, tu as fait allusion à Marois Riedzky, elle, aujourd'hui, là, au moment où ça s'est arrivé, là, les libéraux, là, hein, ils devaient l'haïr pas à peu près.
Oui.
Aujourd'hui, on se rend compte
La madame... On la comprend.
La madame, elle a fait sa job.
Oui.
Tu sais, quand elle l'a dit à Pablo, accompagné de son avocat, les fling-flang d'Ottawa, ben c'est ce qui sort pour l'instant. C'est
exactement.
C'est ça qui sort.
Alors, Marois Riedzky, actuellement, regarde ça, puis elle se dit, bon, c'est tout ce que j'ai vu, et j'ai tellement bien fait, puis je suis sorti de ça maintenant, tant mieux.
Ben moi, pour avoir trempé dans la politique, pas pendant des décennies, il n'y en a pas beaucoup des personnes intègres. Et là, c'en est une.
Tu es sérieux, toi?
J'ai rien à dire. Je vais revenir en studio avec mon avocat.
Jacques, merci beaucoup.
Non, mais ça fait du bien de voir des gens comme elle.
Oui, oui, oui. Non, elle est intègre, cette fille-là.
Qui décide
c'est
d'aller au bâton puis en sachant que le boomerang va revenir.
Oui.
Salut.
Merci, Jacques Plante. J'en profite pour saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. François, Morin-Pierre, Jubinville, Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Puis nous, on est en congé demain. On va se retrouver lundi à 16h. Manquez pas, dans un instant, le 5 à 6 strades avec Justin Lapierre. Ce sera suivi de la série T-shirt, Jeans, Baskets qui reçoit ce soir le groupe Galant, tu perds ton temps. Ce sera présenté en direct du Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. Vous pouvez d'ailleurs y assister. Crapaud qui est situé sur la rue principale à Saint-Félix-de-Valois. Excellente soirée à tous. Bye-bye, à lundi.